Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Mon être est brisé, je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Alléluia. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et comme vous le savez, depuis pratiquement 3-4 semaines, nous sommes dans une série d'enseignements sur la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. L'objectif de cet enseignement est simplement en rapport avec la vision de l'Église, de l'œuvre, sachant que cette œuvre est dénommée Centre d'évangélisation Esprit et Vie. Et puisqu'il s'agit du centre d'évangélisation Esprit et Vie, il s'agit de l'Esprit, il va falloir que donc tous les membres de cette assemblée puissent comprendre les choses de l'Esprit et puissent rentrer dans le mouvement de l'Esprit. Alors nous avons commencé à avoir un séminaire avec l'évangéliste Victor Bomono qui nous a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons pu mesurer la grâce de Dieu. On a vu des gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont parlé en langue, qui ont été libérés. Les démons sont sortis des corps. Le Seigneur a vraiment manifesté sa grâce. Et nous avons également continué l'enseignement avec l'onction. Nous avons vu que l'onction, c'est simplement en fait le pouvoir qu'apporte le Saint-Esprit lorsqu'il descend sur nous. Et nous avons vu qu'effectivement, que lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, il apporte en fait un pouvoir. Il apporte une énergie. Il apporte le paraclétos. Alléluia. Et on a vu qu'en fait, le Saint-Esprit était également appelé le paraclet de Dieu. Donc en fait, ce sont des mots grecs qui désignent paraclet, qui désigne le Saint-Esprit, donc la personne du Saint-Esprit qui est une personne de la divinité, sachant que la divinité est trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et on a vu effectivement que du paraclet descend le paraclétos, qui est l'onction qui vient sur nous. Et il y a un autre mot grec, alléluia, qui veut également désigner la puissance de Dieu, qui va dans le même sens, c'est dynamis. Dynamis qui veut dire la puissance de Dieu, la puissance divine. Alléluia. Et on a également vu que lorsque nous naissons de nouveau, selon Jean chapitre 1 verset 12, nous recevons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Jésus qui est la parole. Lorsque nous la recevons, la Bible déclare que Dieu lui-même nous donne le pouvoir, nous donne l'onction pour devenir enfant de Dieu. Et la parole, c'est qui? Jésus a dit, tu es Pierre, tu es Petros. Et sur cette pierre, Petra, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen, amen. Et nous avons également vu que le Saint-Esprit s'est manifesté par les dons et par les ministères. On a vu qu'il y avait des dons de révélation. Dans les dons de révélation, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le don de prophétie, il y avait la parole de connaissance, il y avait la parole de sagesse. Alléluia. On a également vu qu'il y avait les dons de puissance. Les dons de puissance, il y avait le don de guérison, les dons d'opérer des miracles, plusieurs miracles. Alléluia. Alléluia. On a vu qu'il y avait également le don de foi. Alléluia. Ça fait partie des dons de puissance. Amen. Après, on a parlé du don de discernement des esprits. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. On a vu qu'effectivement, il y avait 9 dons. 9 dons spirituels. Il y avait 9 fruits. 9 tranches du fruit de l'esprit. Car il s'agit du fruit de l'esprit. Alléluia. Et on a vu qu'effectivement, comme il y a 9 dons et 9 tranches du fruit de l'esprit, et qu'il s'agit de l'esprit, et la Bible déclare que l'esprit est comparé à une colombe. Et on a vu que la colombe avait 2 ailes, 9 plumes d'un côté et 9 plumes de l'autre. Alléluia! Alléluia! Vous êtes de bons élèves. Amen. On a vu qu'il y avait également 5 ministères. Le ministère de l'apôtre, alléluia. Apostolos, en grec, alléluia. Le ministère de pasteur, je dis pasteur, c'est en anglais. Le ministère de pasteur, alléluia. Hein? Épiscopos. Pasteur, épiscopos. Alléluia. Amen, amen. On a vu qu'il y avait le ministère de prophète, d'évangéliste et de docteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons continuer dans cette dimension de l'enseignement. Parce que Dieu a dit, mes brebis entendent ma voix, dit Jésus. Nous sommes des bergers. Le bon berger doit pouvoir nourrir le peuple de Dieu, la brebis. En fait, les brebis, la bergerie. Et Dieu nous a dit depuis un certain temps, notre pasteur André, de nourrir le peuple, de parler au peuple, de parler au cœur du peuple. Et c'est pourquoi nous sommes engagés dans cette série d'enseignements. Il faut enseigner le peuple. Alléluia. Parce que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est pourquoi nous sommes là. Et l'objectif, c'est de pouvoir vous rendre autonome. Autonome. Vous êtes des chrétiens. Vous avez reçu la nature de Christ en vous, l'autorité de Christ, l'identité de Christ. Vous êtes capable de chasser les démons, capable de guérir les malades, capable en fait de restaurer les cœurs, capable de prêcher la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être évangéliste, pasteur, docteur, etc. Mais Dieu vous a conféré l'onction, amen, pour opérer ces choses. Alléluia. Et dans Marc 16, 17, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades, ils seront guéris, etc. Est-ce qu'il est dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs? Est-ce qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront les évangélistes seulement? Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru ce matin? Qui a cru? Il n'y en a pas beaucoup? Alléluia! Donc, les miracles vous accompagnent. La Bible déclare que l'église primitive croissait, on l'a vu la dernière fois, par la communion fraternelle également, parmi les quatre piliers. Il y avait la communion fraternelle. Or, Dieu nous exhorte à nous visiter les uns les autres, à vivre dans la communion fraternelle. Et à nous encourager, à prier les uns pour les autres, à nous confesser les péchés les uns les autres. Hein? C'est important. Le but, c'est que vous puissiez être autonome, que vous puissiez vous-même expérimenter. On a vu effectivement que la vie chrétienne est une vie d'expérience. Il faut faire des expériences avec le Seigneur. On nous a appris que 1 plus 1 égale 1 dans la Bible. C'est la vérité. Alléluia. Bon, à l'école, on nous a appris que 1 plus 1 égale 2. Mais dans la Bible, on nous apprend que 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 1. Car nous sommes tous les membres d'un seul corps. Alléluia. Donc, quand on a compris la logique, la mathématique de Dieu, en fait, on fait des exercices. Quand on apprend un théorème à l'école, une théorie, après on met en application. Quand on apprend en fait une formule, après on expérimente. Donc, quand on vient à l'église, quand on enseigne un principe de la parole de Dieu, quand on repart à la maison, on prend ce principe, on l'exerce, on l'applique. Et c'est à partir du moment qu'on fait des expériences avec le Seigneur. Et quand on fait des expériences avec le Seigneur, alors la parole de Dieu vient pour nous, dit l'apôtre Paul, non plus des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais ça devient quoi? Une démonstration d'esprit et de puissance. La parole de Dieu devient vie en nous, elle prend vie en nous. En fait, nous vivons la parole de Dieu, elle devient une réalité. Ce n'est plus des fables conçues de la fontaine. Ça devient une réalité parce qu'on la vit. Ce n'est plus de la religiosité. Donc c'est le but que nous visons vraiment dans cette vision de cette œuvre, à amener le peuple de Dieu à rentrer dedans, afin que le mouvement de l'esprit s'ouvre dans l'église et que chacun d'entre nous soyons capables d'être embrasés par l'esprit, de faire des choses. Alléluia. On veut entendre des choses dans nos familles, on veut entendre des choses dans nos écoles, dans nos lieux d'études, dans nos lieux de travail. On veut entendre des manifestations de la puissance de Dieu au travers de nos mains. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas seulement réservé au pasteur Sosten, à l'apôtre André. Ce n'est pas seulement réservé à l'évangéliste Victor, ou au pasteur Nina Mabouadi, ou au pasteur Chantal Larue. C'est réservé à tous les chrétiens. On ne veut pas en faire, quelque chose qui est réservé à une élite. La Bible est claire, cela concerne tout le monde. Et ce matin, nous allons avoir un enseignement. Et à la fin, nous allons faire un exercice. Tout le monde, on va rentrer à l'application. Alléluia. Et ça va bouger. Amen. Dis à ton frère à côté, ça va bouger. Ça va déménager. Alléluia. Amen, amen. Je vous surveille. Hein. Vous savez, pasteur, épiscopos, ça veut dire évêque, ça veut dire aussi surveillant. Dites surveillant. Dites surveillant. Dites le pasteur va nous surveiller. Dis à ton frère à côté, le pasteur, épiscopos. Dites épiscopos. Dites Flore, épiscopos va nous surveiller. Alléluia. Ok, gloire à Jésus. Lève-nous, allons prier pour recevoir la parole de Dieu. Lève-nous tous dans la présence de Dieu. Nous allons prier pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus.
tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, oh les ombres du soir.
De tout mon être. J'aimerais vous rappeler que l'apôtre André est en déplacement. Il est à Istres, du côté de Marseille en ce moment, où il tient un séminaire de 3 jours. Et l'onction se manifeste là-bas. Alléluia. Je l'ai eu au téléphone. On a rigolé. Il me dit, c'est incroyable. J'ai même pas besoin de toucher. Je fais seulement... Et ça déménage dans la salle. Alléluia. Il y a des guérisons, il y a des délivrances. C'est formidable. Le mouvement de l'esprit. Amen. Ça va embraser toute la France. Et donc, il vous salue et vous remercie de vos prières, de votre soutien à la prière. Et il sera avec nous la semaine prochaine déjà. Alléluia. Gloire à Jésus. Proverbe chapitre 10, verset 22. Quand on parle du Saint-Esprit, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de la grâce, sans parler de la bénédiction. Parce qu'il est écrit que l'Église primitive croissait par l'assistance du Saint-Esprit et une grande grâce reposait sur elle. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand il descend aussi avec une onction de grâce. Et ce matin, Dieu a mis sur mon cœur de vous parler de la grâce et de la bénédiction qui coule du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. Et si vous êtes membre de cette église, vous devez pouvoir expérimenter ces choses dans votre vie personnelle de façon individuelle et de façon communautaire lorsque nous retrouvons. Parce que la Bible déclare aussi que lorsque l'onction de Dieu descend, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, sur le long de son corps, ses vêtements. Et la Bible déclare que c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et la Bible dit également que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction à l'abondance. Donc l'onction ne peut pas descendre sans la bénédiction. L'onction ne peut pas descendre sans la grâce. C'est pourquoi l'église primitive croissait par l'assistance du Saint-Esprit et une grande grâce reposait sur elle. Et notre prière, c'est que cette assemblée croisse par l'assistance du Saint-Esprit dans le mouvement de l'Esprit qui est libéré en cet instant et qu'une grande grâce repose sur vous. Qu'une grande bénédiction vienne sur vos vies, vienne sur vos finances, vienne sur vos couples, vienne sur vos maisons, vienne sur vos emplois respectifs, vienne sur vos études. Alléluia! Qu'une grande grâce repose sur vous. Et donc dans Proverbes chapitre 10, verset 22, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si on peut attraper les enfants, s'il vous plaît. Alléluia. L'onction vient comme une huile qui répandait sur la tête d'Aaron. Et nous avons vu que la tête, ici, en fait, quand la Bible parle de la tête d'Aaron, suivez-moi s'il vous plaît, et si on peut attraper les enfants, s'il vous plaît. La tête d'Aaron, Aaron était un sacrificateur, un lévite, un membre de la tribu de Lévi, qui était chargé de faire le service dans la maison de Dieu. Et vous savez que le souverain sacrificateur avait pour rôle de rentrer dans le lieu très saint une fois par an pour présenter en son nom propre et pour le compte de tout le peuple des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Et donc il fallait immoler un agneau innocent et le sang de l'agneau devait servir pour l'expiation du péché du sacrificateur, du souverain sacrificateur, mais également pour l'expiation du péché du peuple de Dieu, du peuple d'Israël tout entier. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de sacrifice. Or, la Bible déclare que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et la Bible déclare que lorsque Jésus est venu, il a fait de nous un royaume, un peuple de sacrificateurs. Et on a vu dans l'enseignement qui a précédé que Jésus étant souverain sacrificateur, la Bible déclare que l'ange vient dire à Marie au sujet de la naissance de Jésus qu'un fils t'est donné, un enfant, un fils t'est donné et la domination entière reposera sur son épaule. Jésus est la tête. Nous sommes le corps. Et scientifiquement, il est prouvé que la tête ne fait pas partie du corps, mais fait partie de l'organisme humain. Donc le corps commence à partir de l'épaule. Et quand la Bible déclare que la domination entière reposera sur son épaule, la Bible veut simplement nous dire que la domination, le pouvoir, l'onction reposera sur le corps. Or, l'Église est le corps de Christ. Et Christ en est la tête. La Bible déclare qu'il est le souverain sacrificateur qui a été établi selon l'ordre de Melchisédek. Alors Aaron ici préfigure l'image du souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que l'huile, l'onction coule sur la tête, descend sur la barbe et sur le long du corps. Alléluia! Et à partir de ce moment, nous comprenons que l'onction du Saint-Esprit ne peut pas descendre sur le corps sans passer par la tête. Et quand il descend sur la tête, sur Christ, il ne peut descendre sur Christ sans descendre sur le long du corps. Or, la Bible déclare que cette onction-là apporte la bénédiction. La Bible déclare que nous sommes bénis et la bénédiction de l'Éternel va couler sur nous, c'est vrai, mais elle va non seulement couler sur nous, mais elle va également nous enrichir. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je vais vous parler ce matin de la bénédiction. Mais je ne vais pas vous parler de la bénédiction de façon théorique. Dieu m'a dit, parle-leur de la bénédiction, mais raconte-leur ce que j'ai fait pour toi dans ta vie. Et le but ce matin, c'est de pouvoir créer dans vos cœurs la foi afin de rentrer dans ces choses. La volonté de Dieu, c'est que tout le peuple de Dieu soit béni. La Bible déclare que nous sommes bénis, tout le monde est béni, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il se trouve qu'en fait, les bénédictions que Dieu nous a données sont dans les lieux célestes. Or, la volonté de Dieu n'est pas que les bénédictions qu'il a données restent dans les lieux célestes, mais la volonté de Dieu, c'est que ces bénédictions qui sont dans les lieux célestes descendent jusqu'à nous sur la terre. C'est pourquoi il est écrit que tout don parfait et que toute grâce excellente nous viennent d'en haut, de chez Dieu, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses vivre dans l'échec dans tes études. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses vivre dans l'échec dans ton travail. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses vivre dans l'échec sur le plan de la santé. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses vivre dans l'échec sur tous les plans de ta vie. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois béni dans tous les domaines de ta vie. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et pour vous donner la vie en abondance. Je suis en train d'enseigner et suivez-moi s'il vous plaît. Quand on déclare que les bénédictions sont dans les lieux célestes et qu'elles peuvent descendre jusqu'à nous, je vous ai dit la dernière fois que nous sommes des êtres trinitaires. Nous sommes en trois parties. Dieu est en trois parties. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes également trinitaires. Nous sommes à trois parties, trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. On a vu que l'esprit, c'est le domaine de notre être qui nous permet d'être en contact avec le monde spirituel. Donc, en contact avec le monde spirituel, ça veut dire en fait avoir la perception des choses invisibles. On a vu que notre âme, c'est ce domaine où siègent nos désirs, nos sentiments, nos émotions, nos valeurs, nos cultures, nos traditions, nos conceptions, notre intelligence, notre pensée. On a vu effectivement que notre corps, c'est le domaine de la chair, le physique, que nous pouvons toucher, que nous pouvons palper. Et que Thessaloniciens nous a dit que nous devons être sanctifiés, notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Parce que Dieu est trois fois saint. Donc, quand nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu vient en nous, nous sommes sanctifiés dans notre esprit. Et quand nous sommes sanctifiés dans notre esprit est pur à cause de la parole que nous avons reçue, Jésus. Maintenant, il nous reste à sanctifier notre âme. Et on a vu que la sanctification de l'âme vient par le travail de l'âme, la discipline, la sanctification, le jeûne, la prière, la louange, l'adoration, la lecture de la parole de Dieu quotidiennement. On va discipliner notre âme. Notre âme va être sanctifiée pour revêtir les sentiments qui sont en Christ, la nature de Christ et le fruit de l'esprit. Et notre corps également doit être conservé pur jusqu'au jour de son enlèvement. Parce que là, c'est la troisième dimension de la sanctification, notre corps. Quand Christ viendra, notre corps sera enlevé et nous allons revêtir un corps incorruptible de gloire. Nous serons semblables aux anges. Et à partir de ce moment, nous allons entrer à la troisième dimension de la sanctification. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous connaissons en partie sur la terre. Mais quand Christ paraîtra, nous le connaîtrons entièrement et parfaitement. Alléluia. Donc quand la Bible déclare que la bénédiction est dans les lieux célestes, c'est quoi les lieux célestes? Tout le monde, quand on est lieu céleste, on regarde le ciel. La Bible déclare que Dieu n'habite plus dans les maisons faites d'hommes. C'est vrai, Dieu siège dans le trône, sur son trône. Mais la Bible déclare que Dieu a choisi de venir habiter, établir son habitation en nous. Le ciel, ce n'est pas ce que vous regardez là, les nuages. Ce n'est pas ça le ciel. Le ciel de Dieu, on ne le voit pas. Mais la Bible parle du ciel, la Bible parle également des lieux célestes. Et parmi les lieux célestes, le lieu céleste est défini comme étant la sphère où règne la présence de Dieu, où sa volonté est respectée et accomplie. Les lieux célestes, en d'autres termes, c'est cet environnement où la présence de Dieu est manifeste et évidente. Or, la présence n'est pas seulement manifeste dans le ciel où il y a les anges. La présence n'est pas seulement manifeste quand nous nous retrouvons ici, sur la terre, dans un lieu comme celui-là, en train de prier. Mais la présence de Dieu doit d'abord, avant tout, être manifeste dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Donc, dans les lieux célestes, il faut comprendre par lieu céleste également notre cœur, notre vie. Ton cœur est un lieu céleste. Quand Dieu dit que nous sommes bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, ça veut dire qu'en fait, dans notre être spirituel, dans notre être céleste, dans notre être spirituel, en fait, Dieu a investi toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le jour où nous sommes nés de nouveau, avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ce jour où nous avons reçu la parole venue du ciel, la parole qui est Jésus, la parole qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce jour même, nous avons reçu l'onction dans notre esprit. Nous avons reçu la vie de Dieu. Et la Bible déclare qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour, nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous avons reçu la vie. Nous avons reçu la guérison. Nous avons reçu la délivrance. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu l'onction. Nous avons reçu la bénédiction. Nous avons reçu la richesse. Nous avons reçu la gloire. Alléluia. Ce jour même. Et ces choses se sont produites à l'instant où nous avons reçu Christ dans notre cœur, dans notre esprit. Et ces choses sont en nous, sont au-dedans de nous. Et un mot qui définit onction, un autre mot qui définit onction, c'est Christ. Christ vient de onction. Quand l'apôtre Paul dit que je puis tout par celui qui me fortifie, par Christ qui me fortifie, il veut dire je puis tout, j'ai tout pouvoir par l'onction. Quand il déclare que revêtez-vous de Christ, il veut dire revêtez-vous de la nature de Christ, revêtez-vous de l'onction. Le mot grec, un autre mot grec qui traduit. C'est Christ. Christ veut dire quoi? Christ veut dire divinité. Christ, c'est la dimension divine de Jésus lorsqu'il était venu sur la terre. Jésus, c'est l'homme, le fils de l'homme, le fils du charpentier, Joseph, le fils de l'homme. Mais Christ, la Bible dit que Marie reçoit l'ange, l'ange lui dit, mais l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Christ, c'est l'entité divine. Or, quand nous recevons Christ en nous, l'Esprit de Christ entre en contact et en communion avec notre esprit, et c'est ce qui crée en nous la résurrection de notre esprit. car nous étions morts dans nos péchés, et en revêtant Christ, nous sommes ressuscités avec Christ pour vivre en nouveauté de vie avec le Seigneur. Nous revêtons en cet instant la nature de Christ en nous. À partir de ce moment, nous retrouvons notre état originel dans le jardin d'Éden, où nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc à partir du moment où nous naissons de nouveau, nous sommes enfants de Dieu, nous devenons des enfants de Dieu, revêtus de l'Esprit de Dieu. Donc notre esprit révèle la nature de Christ. Nous sommes à partir de ce moment des Christ. Nous sommes le Christ, la lumière du monde. Nous sommes le Christ, la lumière du monde, comme le chantons ici. Nous devenons des Christ. C'est pourquoi Christ a dit: ceux qui croiront en mon nom feront des choses que j'ai faites, mais ils en feront encore même des plus grandes, car tout disciple accompli sera comme son maître. Nous ne sommes pas disciples de Jéhovah, mais nous sommes disciples de Christ. Parce que Jéhovah est le nom de Dieu, mais Christ, c'est l'entité divine de Jésus. Ça veut dire que quand nous revêtons Christ, nous sommes des Christ. À partir de ce moment, nous avons un état qu'on appelle l'état christique. Suivez-moi bien. Cet état christique-là, ça veut simplement dire, nous sommes quelque part à l'image de Dieu. Donc nous sommes, je vais vous choquer, hein, mais nous sommes des dieux, ayant reçu le pouvoir de créer, de donner la vie comme de donner la mort. Or la Bible déclare que de la même bouche sort la bénédiction et de la même bouche sort la malédiction. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour vous, mes frères. Nous sommes donc créés à l'image de Dieu pour donner la vie et la bénédiction. Et toutes les fois que Christ était sur la terre, on lui a demandé de maudire. Il a dit: non, je ne suis pas venu pour perdre, je suis venu pour sauver. Et c'est à partir de ce moment que nous avons reçu la nature de Christ en nous, que nous recevons le pouvoir, l'onction pour faire les mêmes choses que Christ a faites. Nous pouvons guérir, nous pouvons ressusciter les morts, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons donner la vie à ceux qui sont morts, nous pouvons prier pour les malades sont guéris. Nous pouvons chasser les démons, changer les temps et les circonstances, appeler la pluie si on en a besoin. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, il a prié afin qu'il pleuve. Et il a plu. Et quand nous rentrons dans cette dimension spirituelle, la dimension de l'esprit, nous sommes donc en communion avec ces choses-là. Mais il nous reste une seule chose, c'est que nous sommes là-dedans, dans la sphère spirituelle. Nous vivons là-dedans, d'accord. Mais le problème, c'est qu'il faut que ce qui est dans les lieux célestes là ne reste pas seulement dans l'environnement céleste, ne reste pas seulement dans la dimension céleste. Il faut que ces choses-là qui sont spirituelles puissent sortir de l'invisible pour apparaître dans le visible. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a rien de ce qui est visible qui n'a été fait de choses invisibles. Trône, dignité, domination, tout a été fait par Dieu et pour Dieu. Et donc ces choses qui sont invisibles doivent sortir de l'invisible pour apparaître dans le visible. Et j'ai expérimenté cela, bien-aimé. J'ai expérimenté cela. Le problème, c'est que nous sommes des êtres spirituels. À partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, mais le grand problème avec nous, c'est que nous continuons à rester là, dans l'esprit. Nous ne sortons pas pour venir manifester visiblement, en fait, cette divinité. Parce que Christ est venu sur la terre, il a quitté la dimension spirituelle, il est venu dans la dimension visible, afin qu'il soit vu, touché de tout le monde, et qu'il soit palpable. C'est ça que la Bible déclare. Le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La révélation. La révélation. Révéler veut dire ne plus se cacher. Sortir de sa cachette et se montrer. Le monde ne connaît pas la dimension spirituelle. Le monde ne voit que ce qui est visible. Parce qu'il a dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Or, le problème, c'est quoi? Nous, les chrétiens, on veut rester dans le spirituel. Le problème, c'est que le monde attend que nous puissions sortir de là pour montrer physiquement, visiblement, ce spirituel-là. Et quand on déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes, et que tout nom parfait, tout grâce, nous vient d'en haut, des lieux célestes, Dieu veut nous faire comprendre que nous devons maintenant, que nous avons reçu ces choses dans notre esprit, dans les lieux célestes. Il faut que ces choses maintenant puissent quitter l'invisible et sortir dans le visible. Or, pour que ça quitte de l'invisible, soit dans l'invisible, ça doit suivre un parcours. Quand tu quittes le spirituel, le premier dans son parcours, le premier obstacle que l'onction, l'œuvre et la puissance, la bénédiction va rencontrer sur son chemin, c'est quoi? c'est d'abord notre âme. Et quand l'onction, la bénédiction a commencé à traverser notre âme, et là encore, il faut qu'il traverse nos sentiments, nos émotions, nos caractères, nos cultures, nos pensées, nos raisonnements, notre intelligence, nos propres valeurs et du chemin. Hein. Et quand la bénédiction a commencé à traverser tout ça, et qu'elle a réussi à traverser tous ces obstacles-là, alors la prochaine étape, ce sera maintenant notre corps. Or, dans notre corps, on peut trouver beaucoup de choses également. Et il faut qu'il traverse ce corps-là. Dans le corps, il y a le sang. Et ce sang-là peut être un sang héréditaire. Le sang héréditaire, c'est le sang de nos ancêtres, c'est le sang de nos parents. Ça peut être le sang meurtrier. On a hérité dans nos gènes d'un sang meurtrier, d'un sang de violence. Ça peut être un sang de vol. Ça peut être un sang d'occultisme. Ça peut être un sang d'abomination. Ça peut être un sang de malédiction. Il faut que ça traverse tout ça avant que ça ne soit visible. Et dans le sang, il y a également la chair. Dans le corps, il y a également la chair. Dans la chair, il y a les gènes, il y a les chromosomes. Dans la chair également, il y a les globules. Dans le sang également, les globules. Mais dans la chair également, il y a les cellules. Il y a toutes sortes de choses que scientifiquement, il a été démontré que l'organisme humain a tellement de choses. C'est un monde immense. Or, ces choses-là sont le fruit de notre hérédité. L'hérédité de nos ancêtres. Alors là encore, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait. Que la bénédiction puisse traverser toutes ces étapes-là. Avant qu'elle n'arrive à nous. Quand l'apôtre Paul est arrivé à une dimension où rien que son ombre pouvait guérir les malades, ce n'était pas n'importe quoi. Il a atteint une dimension. L'apôtre Paul, il a été ravi en esprit. Il atteignait des dimensions d'extase à tel point que même il arrivait jusqu'à atteindre le septième ciel. Les gens ne comprenaient pas pourquoi l'apôtre Paul faisait des miracles. Parce que l'apôtre Paul, c'était un apôtre. Après, c'est le 13e apôtre. Il est venu après Jésus-Christ. Mais il a manifesté des miracles, des signes, tels que même ceux qui ont marché avec Jésus-Christ n'ont pas connu. Rien que son ombre guérissait les malades. Quand Jésus-Christ, rien que le pan de sa robe pouvait guérir une femme en perte de sang, ça veut dire que l'onction avait fait son chemin. L'esprit, toutes les étapes de l'esprit, l'âme, toutes les dimensions, le corps, toutes les dimensions, afin qu'il puisse maintenant couler en nous. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans l'église, dans nos propres vies. C'est que réellement nous sommes bénis. Réellement nous avons reçu l'onction. Réellement nous avons reçu la puissance. C'est la vérité. Dieu ne ment pas. Le problème c'est que ces choses-là ne sont pas visibles. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore dans le domaine invisible, dans le domaine spirituel. Pourquoi? Parce que simplement Dieu attend que nous puissions maintenant. Nous, ce n'est plus le travail de Dieu. Dieu a fait son travail. Il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans l'esprit. Maintenant, c'est bon. Nous sommes nés de l'esprit. C'est bon. Maintenant, ce n'est plus le travail de Dieu. Le reste du travail, c'est maintenant notre travail à nous, enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses être capable toi-même maintenant de libérer la puissance de Dieu, de libérer la bénédiction de Dieu, de libérer l'onction de Dieu afin qu'elle coule et qu'elle traverse ton être tout entier pour atteindre les autres. C'est de ce qu'on parle d'être un canal. Un canal. Un canal. La Bible nous dit que lorsque nous jeûnons par exemple, nous courbons notre âme comme un jonc. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre âme veut manger, mais nous disciplinons notre âme. Pourquoi? Parce que nous disciplinons notre âme pour que les désirs de l'âme se taisent, les intentions de l'âme se taisent, et que ça soit mort. Mort dans nos désirs, dit la parole de Dieu. Mort dans nos désirs, mort dans nos sentiments, mort dans nos émotions, mort dans nos cultures, mort dans nos valeurs. Et quand nous sommes morts ainsi, alors la semence de la germe, de la vie de Dieu en nous, va prendre naissance et va couler au travers de nous. Parce que si nous ne sommes pas morts en nous, rien ne va se manifester. Pour qu'une semence puisse germer, il faut la planter. Vous prenez une graine d'arachide, vous la plantez, elle va d'abord mourir. Elle va pourrir, elle va disparaître dans le sol afin qu'elle puisse donner naissance à une plante. C'est ça le problème aujourd'hui. Nos valeurs ne sont pas mortes. Nos désirs ne sont pas morts. Nos émotions ne sont pas mortes. Nos sentiments ne sont pas morts. Notre culture n'est pas morte. Notre tradition n'est pas morte. Voilà pourquoi la vie de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu et toute cette onction que Dieu nous a conférée le jour de notre sens spirituel demeure encore sur le plan spirituel, sur le plan invisible et ne paraît pas encore aux yeux et à la face des nations aujourd'hui, bien-aimés. Mais elle déclare que la bénédiction sur l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel est réelle. Elle est dans les lieux célestes. Elle est réelle. Elle est réelle. Elle est invisible. Oui, mais je vous dis ce matin, bien-aimés, il y a une différence entre ce qui est vérité et ce qui est réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'en fait, la bénédiction dont ils ont promis, on ne la voit pas. L'onction, on ne la voit peut-être pas tout le temps. La puissance, on ne la voit pas tout le temps se manifester. Mais la réalité que nous vivons aujourd'hui n'occulte pas la vérité spirituelle qui existe. Or, la vérité spirituelle, ce n'est pas nous. Elle ne dépend pas de nous. La vérité spirituelle ne dépend pas de toi, mon frère. La vérité spirituelle ne dépend pas de toi, ma soeur. La vérité spirituelle dépend du ciel. Parce que c'est Christ qui est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tu peux vivre ta réalité. C'est ta réalité à toi. Tu es dans la souffrance, c'est une réalité. Mais Christ demeure la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et la vérité, c'est que Christ est venu t'affranchir de ta souffrance. Christ est venu t'affranchir de ta maladie. Christ est venu t'affranchir de ta situation. Et Christ t'a béni, t'a doté de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est ça la vérité. Maintenant, il faut que cette vérité qui est spirituelle sorte de l'invisible pour apparaître dans le visible. Et c'est là que nous sommes bloqués. Mais pour que cela soit ainsi, je vais vous donner quelques clés, pas toutes, mais quelques clés. Une des clés les plus importantes, c'est la sanctification. C'est Ésaïe chapitre 59, verset 1 qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous attendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et ce sont vos iniquités qui l'empêchent de vous écouter. » Il faut purifier le canal. Dites purifier le canal. Dites purifier le canal. Il faut libérer. Quand il y a un canal quelque part, même en communication, ce qu'ils font la communication, vous savez, quand il y a des parasites dans un canal de communication, il y a soit interférence, soit inférence, n'est-ce pas? L'inférence, c'est quoi? C'est une sorte de préjugé qui fait que quand quelqu'un dit « Ah, toi, tu entends B », ça, c'est l'inférence. L'interférence, c'est quoi? C'est le message n'arrive pas en totalité. D'accord? Il y a des blocages. Donc, il y a quelque chose qui ne passe pas. Tu veux libérer la bénédiction, veut couler, ça coule à compte-gouttes. Il y a blocage. Le canal, c'est quoi? Le canal, c'est ta vie. Ton esprit, ton âme et ton corps. Il faut que ces trois dimensions-là soient libérées pour pouvoir faire couler la grâce et la bénédiction. Et ce premier principe, je l'ai expérimenté. Je vais vous en partager deux seulement ce matin. Je ne vais pas être très long. Je l'ai expérimenté comment? J'ai remarqué que quand j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué. C'est que Christ a commencé à mettre en moi le désir vraiment de lui être agréable. Et J'avais vraiment beaucoup d'amis dans le monde. Quand je parle d'amis, ce n'est pas seulement des amis, des collègues, mais des amis également sur le plan sentimental. Et mon désir premier, c'était de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux te plaire. Et la première chose que le Saint-Esprit me conduit à faire, on parle du Saint-Esprit, on parle de l'onction. On a vu la dernière fois que l'onction nous enseigne toutes choses. On n'a pas besoin que quelqu'un nous enseigne. L'onction nous enseigne toutes choses. Et le Saint-Esprit m'a dit, Sosten, arrête telle chose. Va couper telle relation. Va dire à telle personne que c'est fini. Donne ta vie à Jésus, tu es devenu chrétien. Fais le nettoyage dans ta vie. Je suis allé, j'ai fait ce qu'exactement le Seigneur m'a demandé de faire. J'ai nettoyé ma vie. Et j'ai remarqué qu'avant que je ne le fasse, j'avais des problèmes dans mes études. Pourquoi? Parce que dans ma famille, il y avait une malédiction. Personne, mes parents, ils ont fait jusqu'à 10 enfants. 7 filles, 3 hommes. Et aucun de ceux qui m'ont précédé n'avait réussi dans les études. Personne. Oh, ils étaient brillants, elles étaient brillantes.
mais personne n'arrivait jamais à franchir le cap du brevet encore moins du baccalauréat. Et moi, avant d'être enfant de Dieu, j'étais sous le joug de cette malédiction là et j'ai répété les classes. Et le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et que j'ai décidé de rompre avec mon histoire, de rompre avec mon passé, de rompre avec l'histoire de mes ancêtres, de rompre avec l'histoire de ma famille, ce jour-là, j'ai fait quelque chose de spirituel dont je n'avais jamais pris conscience avant que maintenant je ne puisse avoir la révélation. C'est que j'ai rompu un lien spirituel. Et à partir de ce moment-là, j'étais en classe de quatrième. À partir de la troisième, seconde, jusqu'à l'école de commerce et jusqu'à maintenant, bac plus 5, je n'ai plus jamais répété une seule classe. J'ai plus jamais répété une seule classe parce que j'avais rompu le lien. Et le lien spirituel subsisterait encore si je n'avais pas obéi à ce que le Saint-Esprit m'avait dit, va couper. J'ai coupé parce que les péchés que je commettais donnaient accès au démon de la malédiction de ma famille de contrôler ma vie, de contrôler mes études et d'agir en moi. Et donc la bénédiction de l'Éternel ne pouvait pas couler sur moi, ne pouvait pas couler dans ma vie, ne pouvait pas m'enrichir. Échec. Tout le temps échoué. Échoué. Je m'investissais, j'ai étudié, rien ne marchait. Mais quand je suis rentré, j'ai décidé de rentrer dans le principe de la sanctification. Sanctification ne veut pas seulement dire j'ai commis un péché, je demande pardon. C'est pas seulement ça. Sanctification, l'origine du mot grec sanctification veut dire séparation. Dites séparation. Séparation. Donc quand vous avez compris ce que c'est séparation, vous pouvez maintenant en déduire vous-même. Séparation de quoi? De tout ce que le Saint-Esprit vous montre que ce n'est pas bon devant le Seigneur. Sépare-toi. Et quand tu le fais, la Bible déclare que en ce moment-là, la main de l'Éternel devient favorable à toi et ses oreilles attentives à ta prière. Et j'ai vécu ça, bien-aimé. Depuis lors, j'ai connu la grâce de Dieu. Non seulement j'ai reçu dans mes études, mais sur le plan social, j'ai vu la grâce de Dieu se manifester. Quand j'ai fini mes études à l'école de commerce, j'étais major de ma promotion. Sollicité par des entreprises, le jour de la remise des diplômes, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient là. On courait après moi comme ça. Vous venez à l'entretien. Le jour même, on a fini la remise des diplômes, il était pratiquement 13 heures. Dans les 30 minutes qui ont suivi, une banque m'a appelé pour aller passer un entretien. J'avais encore ma tenue de lauréat. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai accepté d'obéir. Cette grâce ne m'a pas quitté. J'ai été embauché, j'étais encore très jeune, je commençais à travailler, j'avais 23 ans. J'ai dit non Seigneur, il faut que je continue mes études. J'ai travaillé pendant un temps. J'ai dit Seigneur, maintenant il faut que je poursuive mes études. Je vais faire un troisième cycle. Vous voyez comment Dieu va agir maintenant. Dieu va me dire, Sostel, tu vas expérimenter un autre principe. Tu as expérimenté le principe de la sanctification, maintenant tu vas rentrer dans le principe de la foi et la grâce. Et je vais terminer par ce principe. Ce qui va se passer, c'est quoi? Dieu va me dire, maintenant tu vas vendre tout ce que tu as. Et tu vas me suivre à un endroit que je te montrerai, que toi tu n'as pas choisi, mais que moi j'ai choisi. Alors, après notre mariage, mon épouse et moi, alors que je me disais, bon, maintenant mon épouse, quand elle est rentrée du Maroc, on va se marier, on va être chez moi, on va fonder notre famille, etc. C'est là que Dieu me dit, c'est maintenant même que tu vas te laisser. J'ai fait comment, Seigneur? Toute ma famille, vous savez, en Afrique, on compte sur vous. Vous êtes le seul à avoir réussi dans les études. Tous les autres, c'était sous le joug de la malédiction. Donc, maintenant, tout le monde a regardé sur toi. On fait comment? Seigneur dit, c'est bon. Comme avec Abraham. Tu m'as goûté, je suis bon. Maintenant, je vais voir si tu as la foi. Donne-moi ton fils. Sacrifie-le sur l'autel. Dites l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel. Alors, je vais sacrifier mon fils Isaac. Mon travail sur l'autel. J'arrête tout. Et Dieu va faire un miracle. En l'espace d'une semaine, vous savez, là-bas, pour avoir un passeport, il faut attendre au moins 8-12 mois. En l'espace d'une semaine, boum, j'ai le passeport. En l'espace de quelques jours comme ça, je vois des offrandes qui fusent de partout. Des gens qui me remettent des enveloppes, jusqu'à hauteur de, je vais vous le dire en français, bon, en euros, ça fait l'équivalent de 2 millions, plutôt 2 000 euros.
parce que je ne sais, 1 million, voilà, 1 million, donc ça fait 1 million 500, mais ça fait en gros plus de 2 000 euros ici. Et le Seigneur va me bénir, il va ouvrir les portes. J'arrive ici, je paye le billet, j'arrive ici avec ma femme. L'erreur que va commettre le consulat de France, c'est de me donner un visa qu'on appelle étudiant, concours, parce que je venais pour, en même temps je vais passer les examens, donc il fallait que j'ai un visa concours. Or le visa concours, vous êtes condamné à réussir le concours pour lequel vous êtes venu ou l'examen pour lequel vous êtes venu. J'arrive, je passe l'examen, et bien bien aimé, je vais échouer brillamment. J'ai échoué brillamment à l'examen. Suivez-moi s'il vous plaît. Je suis maintenant rentré dans la dimension de la foi. J'ai fini avec la sanctification. Maintenant la foi. Il va me montrer comment vivre par la foi. Donc quand vous n'avez plus rien à faire, qu'est-ce que l'État français vous dit? Vous rentrez chez vous. Merci, vous êtes venu pour un examen. Bordeaux 4, vous n'avez pas réussi. Maintenant vous rentrez chez vous. Tu dis, Seigneur, j'ai démissionné. Je n'ai plus rien. Tu m'as dit, c'est toi qui m'as dit démissionne. Sauf si j'ai mal entendu, mais Seigneur, c'est comment? Le premier miracle va commencer. Alléluia. Le premier miracle va commencer. 2 mois après mon arrivée en France, je n'avais pas encore de titre de séjour. 2 mois après, le Seigneur me dit, prends le téléphone, réponds à tel appel d'offre. J'ai dit, Seigneur, vous savez que je sais très bien qu'en France, ici, pour travailler, il faut avoir le titre de séjour. Moi, je n'ai même pas encore le titre de séjour. En plus, le papier qui me permet d'avoir le titre de séjour, c'est fini. L'affaire est terminée, il faut que je reparte. Prends le téléphone, je prends le téléphone, j'appelle. Oui, monsieur, etc., on prend rendez-vous, j'arrive. Je passe entretien. Je n'ai pas le titre de séjour, hein. Je passe entretien dans une entreprise de la place. Une grande entreprise. Oui, c'est un CDD de 3 mois. Je dis, il n'y a pas de problème. Et entre-temps, le Saint-Esprit nous dit à mon épouse et à moi, allez louer un appartement. Voyez la folie de Dieu. On va louer un appartement, on vient de se marier, on n'a pas de salaire, mon épouse ne travaille pas, elle vient de finir ses études. Moi aussi, je viens de quitter un emploi, j'ai plus de salaire. Et je suis dans une situation, il faut que je quitte les lieux, rapatriement. Il faut louer un appartement. Et Dieu va parler dans le cœur de certains frères que portez-le. Ils vont se porter caution pour l'appartement. Premier mois, pas d'argent, il faut payer le loyer. Les lettres commencent à venir. Nous vous rappelons le compte débiteur d'État. J'ai dit, Seigneur, ça commence. J'ai dit, 2 mois après, je passe l'entretien. L'entretien s'est très bien passé. L'employeur me dit, c'est bon, votre profil 4, etc. Maintenant, on va faire les papiers pour l'embauche. Le Saint-Esprit me dit, dis-lui que tu n'as pas d'été de séjour. J'ai dit, mais attends, c'est quoi l'histoire? C'est toi qui m'amène ici, tout ça. Dis-lui que tu n'as pas de séjour. J'ai dit, excusez-moi s'il vous plaît. Bon, tous les papiers sont là, mais seulement je vous dis une chose, il manque le titre de séjour parce que je n'ai pas de titre de séjour. L'employeur commence à dire, ah là c'est compliqué. Elle dit, bon attendez-moi. Elle descend au premier étage. Elle met quelques minutes, elle revient là-bas et dit, écoutez, monsieur Mabouadi, vous repartez, nous allons vous rappeler. J'ai dit, bon, j'ai compris l'affaire. Le dossier est classé. Mais le lendemain, je reçois un coup de fil. Monsieur Mabouadi, vous commencez la semaine prochaine. Alléluia! Mais attendez, il ne s'agit pas ici d'un emploi au noir. C'est déclaré à l'USAF, déclaré à la sécurité sociale. J'avais un numéro de sécu, des bulletins de salaire établis. J'ai touché un salaire à la fin du mois et j'étais employé légalement en France, mais sans titre de séjour. Alléluia! Ça, c'est la foi. Quand j'ai fini ce contrat, maintenant il faut que je fasse ce que je suis venu faire parce que je voulais vraiment faire un troisième cycle. Or, il y a une école qui m'appelle, je passe les examens, donc c'est Bordeaux École de Management. Je passe l'examen, ça se passe très bien. Le problème, c'est qu'il faut payer l'école, ça fait 10 000 euros. Or, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de bourse. Même si j'avais la bourse de notre État gabonais, elle ne peut aller qu'à hauteur de 3 000 euros maximum. Donc 10 000 euros, ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas aller. On me dit, il faut avoir un contrat de qualification. Mais le contrat de qualification, je m'appelle la DDTE, on me dit, mon cher ami, le contrat de qualification, premièrement, il y a des conditions. Il faut avoir un titre de séjour, soit de cadre résident, ou encore vie privée familiale ou salarié. quel type de séjour avez-vous, monsieur Mabouadi? J'ai dit aucun. L'affaire se complique. Vous espérez avoir un type de séjour dans bientôt? Le Saint-Esprit me dit, dis-le oui. Je dis, oui, je l'espère. Et ce sera lequel? Étudiant. Ah, monsieur Mabouadi, même avec le type de séjour étudiant, on ne peut rien faire pour vous. Je rentre à la maison, je dis, Seigneur. Je me mets dans la prière avec mon épouse. Pendant qu'on priait, le Saint-Esprit me dit, téléphone la direction de la DDTE et prends rendez-vous. Je téléphone. On me reçoit. En temps, le Saint-Esprit m'a dit, tu prépares ton dossier. Tu écris, c'est pas toi qui vas parler. J'arrive, on me reçoit. Bonjour, monsieur Mabouadi, etc. Oui, oui, oui. Je donne le dossier à la dame qui était là. Elle regarde le dossier. Elle dit, ah, monsieur Mabouadi, c'est compliqué l'affaire. Vous n'avez pas de séjour. Et votre visa, il est expiré. Vous êtes en situation irrégulière. J'ai dit, oui, je suis en situation irrégulière. Mais comment pouvez-vous espérer avoir un contrat de qualification dans ces conditions-là? Parce qu'elle m'a expliqué ce que c'est le contrat de qualification, etc. J'ai dit, je connais tout ça. Mais je suis venu vous rencontrer parce que j'espère que quelque chose peut se faire. Elle prend son téléphone. Elle appelle si c'est où, si ça parle, si c'est pas trop. Si elle entend des discuter au téléphone, il dit, quelle nationalité, oh, etc., etc., etc. Après, elle raccroche et dit, monsieur Mabouadi. Cette phrase-là, je ne vais jamais l'oublier. Ça, c'était vraiment un jour incroyable. Elle me dit, monsieur Mabouadi, par titre dérogatoire et sous réserve de l'obtention de votre titre de séjour étudiant, nous vous accordons l'octroi de votre contrat de qualification. Alléluia! Mais l'affaire n'est pas finie, bien-aimé. Il reste le titre de séjour. Quelques jours après, il y a un prophète qui arrive. Il va profiter sur moi. Beaucoup le connaissent. Il s'appelle Fleischer. Il me dit, toi, tu as des problèmes de papier. Chez nous au pays, hein, on aurait dit basset. Mais comme je suis enfant de Dieu, j'ai dit, amen. Alléluia. Il dit, tu as un problème de papier. J'ai dit oui. Tu as eu des reconnaissances à la frontière. J'ai dit oui. Il dit, mais ne t'inquiète pas. Si tu as quitté ton pays pour venir ici, ce n'est pas de ta propre volonté. C'est Dieu qui t'a envoyé. Et c'est là que Dieu confirme mon appel. Alléluia. Que je t'ai demandé de vendre tout ce que tu as vendu. C'est moi qui t'ai demandé pour me suivre. Et nous sommes souvenus, mon épouse et moi avait reçu une parole prophétique en étant confiance. On était très jeunes. Dieu nous avait dit, je vais vous appeler pour me servir hors des frontières de votre nation. Et le prophète va confirmer, dit, voilà, c'est le temps d'accomplissement de la promesse. Ne t'inquiète pas, tu auras tes papiers. On n'avait plus un avocat. L'avocat a tout essayé. Ça n'a pas marché. Le dossier était clos. On a reçu les lettres de reconduction à la frontière. Il fallait déguerpiller. Et j'étais là, je ne savais plus quoi faire. L'homme de Dieu vient, il parle. Il dit, voilà, Dieu va faire quelque chose. Tu auras tes papiers. Quelques semaines après, je reçois un coup de fil de la part de mon avocat. Monsieur Mabouadi, je dis oui. Qu'est-ce qui se passe? Passé à mon cabinet, et on a reçu une lettre du tribunal administratif. Il y a une audience qui a été ouverte exceptionnellement pour vous. Il faut que vous soyez là. Ok, d'accord, j'arrive. On arrive là-bas. L'avocat, il met sa tenue d'avocat, prêt à plaider. Le juge commence à prononcer l'affaire, expliquer la situation, etc. Au moment où l'avocat veut parler comme ça, j'entends le juge qui dit, monsieur Mabouadi, au nom de la République française et à mon nom propre, nous vous présentons toutes nos excuses pour tous les désagréments causés par cette affaire. Alléluia. Je dis, mais je comprends pas ce qui se passe. L'avocat me regarde. Monsieur Mabouadi, venez ici, il y avait une secrétaire à côté, tous les papiers étaient prêts. On me dit, ça m'a signé ici. Je vois mon nom écrit en grand caractère, tapé à l'ordinateur, la Sostel Mabouadi. Alléluia. J'ai signé le papier et depuis ce jour, j'ai obtenu mon titre de séjour. Alléluia. Amen. Et j'ai pu monter de ce jour, je me suis présenté à la DDTE, on m'a constitué le dossier et j'ai eu mon contrat de qualification. Donc, 10 000 euros payés par l'État français et en plus à la fin du mois, un salaire. L'affaire est réglée. Alléluia. Mais, pour terminer maintenant, c'était la dernière étape de l'histoire. Bon, je vous passe plein de détails. Hein. J'ai fait 6 mois dans une entreprise et au bout de 6 mois, non, j'ai fait 3 mois dans une entreprise, voilà. Et au bout de 3 mois, l'entreprise fait faillite. Je me retrouve sans entreprise. Je dis, mais c'est pas possible, c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est quoi cette histoire? Le Seigneur me dit, attends. Vous savez pourquoi? Parce qu'en temps, on avait cumulé des dettes de loyer jusqu'à hauteur de 6 000 euros. Donc, c'est vrai, je venais d'avoir le contrat de qualification. J'avais un salaire maintenant. L'école était payée. Le loyer devait être payé. C'est bien. Mais les 6 000 euros, il fallait les régler. Donc, Dieu m'a appris. Il m'a mis dans une entreprise où il savait que ça devait fermer bientôt. Parce qu'il avait un plan derrière la tête. Dites, Dieu a un plan. Dites, Dieu a un plan. Dieu a un plan. L'entreprise ferme. Tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Comment ça? Je commence à me lamenter. Le Seigneur dit, attends, laisse tomber. Comme disait l'évangile Victoire, je suis au contrôle. Je ne suis pas en train de vous parler de choses abstraites. Dieu m'a dit ce matin, sois concret. Enseigne-leur l'onction de la bénédiction, mais sois concret. Dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Je vous parle en ce moment de deux principes que j'ai expérimentés. Le reste, je vous en partagerai prochainement. J'ai expérimenté le principe de la sanctification. Maintenant, j'expérimente la foi et la grâce. Et alors, ce que je ne savais pas, c'est que le contrat de qualification, on ne doit pas le rompre n'importe comment. Un employeur ne peut pas rompre ce contrat-là comme ça. S'il arrête comme ça, il est obligé de vous payer le reste des mois jusqu'à la fin du contrat. Et voilà comment je me retrouve avec 7000 euros dans le compte. J'ai dit, Seigneur, c'est comment? 7000 euros dans le compte. Voilà comment. Et en même temps, mon épouse, elle avait postulé pour un poste d'agent commercial. Elle a commencé quelques jours et la grossesse ne pouvait pas lui permettre de continuer, donc elle a arrêté. Donc les assurances lui disent, bon, maintenant comme la début de grossesse est un peu difficile, vous arrêtez le travail, maintenant on vous prend en charge le reste des mois. Et 7000 euros qu'on m'a versé, les assurances vont également verser à mon épouse 7000 euros dans le compte. Et tout ça arrive au même moment. Alléluia! Quelques jours après, mon école m'appelle pour me dire, Monsieur Maboli Sosten, on vient de vous trouver une autre entreprise pour votre contrat de qualification. Vous êtes engagé chez BMW à Bordeaux. Alléluia! La foi et la grâce. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Et la foi, c'est l'obéissance. Parce qu'on a obéi au Seigneur, alors Dieu a géré la situation. Et j'ai fait mes études tranquillement. J'ai fini mes études. Il me reste simplement à présenter ma thèse. J'ai fait une thèse en développement durable pour aller chercher mon diplôme. Parce qu'on m'a dit à l'école que, monsieur Mabodien, ce qui vous concerne, la soutenance n'est qu'une formalité. Votre diplôme, vous l'avez déjà acquis. Et c'est vrai, puisque je parle tellement bien. Donc la soutenance, ce sera une formalité. Et sans avoir déjà obtenu ce diplôme-là, le Seigneur va m'ouvrir les portes de travail. Et ça, c'est un épisode que je vous raconterai prochainement. Je vous montrerai comment le Seigneur a ouvert les portes. Comment le Seigneur a agi, espérant contre toute espérance. Alors que, en tant qu'étranger, vous connaissez les situations pour être embauché. La DDT s'est opposée, la préfecture s'est opposée. Mais l'entreprise qui m'a embauché, la poste, a dit, quelles que soient les circonstances, nous, la personne qu'on veut, c'est lui. Et aujourd'hui, on ne veut pas dire qu'on ne connaît pas des difficultés, des épreuves. Mais quand je parle de bénédiction, quand je parle de grâce, quand je prie pour quelqu'un, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, je sais de quoi je parle. Bien-aimé. Je sais sur quoi je m'appelle. Je sais de quoi je parle. C'est pas du vent. Je sais de quoi. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je connais le Dieu que je prie. Je connais le Dieu que je... C'est précisément le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais je prie le Dieu de ma boîtier. Alléluia. Je le connais, ce Dieu. Et quand je prie, quand je dis, frère, viens, je vais prier pour toi, je sais de quoi je parle. Il a ouvert les portes. Il a favorisé les temps et les circonstances. Il a fait des miracles dans ma vie. Et ce matin, je ressens dans mon cœur la foi qu'il va faire de même pour toi. Je ressens l'onction sur moi ce matin qu'il va faire de même pour vous. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire ce matin, prie pour tes frères, prie pour eux. Et j'entends débloque. J'entends brise. J'entends restaure, rétabli. Et ce matin, Dieu va restaurer. Dieu va rétablir. Dieu va briser ce qui doit être brisé. Dieu va ouvrir les portes qui sont fermées. Dieu va changer les temps et les circonstances. Dieu va ouvrir quelque chose, un horizon nouveau pour toi ce matin.